Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, merci d'écouter la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Et merci d'avoir choisi RTL ce matin pour présenter cette rentrée et répondre aux auditeurs après 8h au 32-10. D'abord, monsieur le ministre, après avoir lancé autant de chantiers en 15 mois, dédoublement, réforme du bac, du lycée, devoirs faits au collège, etc., on y reviendra sur certains points. Vous êtes bien la preuve vivante que non, les Gaulois ne sont pas réfractaires à la réforme.
Eh bien, nous sommes un peuple avec des caractéristiques riches. Nous sommes à la fois cartésiens et créatifs. Et nous sommes donc à la fois capables de réformes et capables d'y résister. Et après tout, c'est ce qui fait notre force aussi.
Ouais.
Et l'éducation nationale est peut-être à l'image accentuée de la France. C'est-à-dire que c'est une maison, en fait, qui est tout à fait capable d'agilité. Et d'ailleurs, nous l'avons démontré ces derniers mois.
Vous avez fait bouger le mammouth.
Pas moi personnellement, mais la maison, que je n'appelle pas avec le mot que vous avez utilisé, a réussi. Regardez, de juin 2017 à septembre 2017, elle a réussi en 3 mois à s'organiser pour que 60 000 élèves bénéficient des classes dédoublées. C'est un signe d'agilité. Et donc, le meilleur de notre génie national peut donner des choses extraordinaires.
C'est votre deuxième rentrée en qualité de ministre de l'Éducation nationale. Personnellement, vous êtes dans quel état d'esprit ?
Un état d'esprit de sens de la durée, un état d'esprit de sillon à creuser. Le but d'une rentrée n'est pas d'annoncer des nouveautés qui s'accumulent, mais c'est d'approfondir les sillons qui ont déjà commencé. Donc l'année dernière, on a clairement indiqué la nature de ce sillon. C'est un sillon d'élévation du niveau général des élèves, et notamment pour garantir que tous sachent lire, écrire, compter, respecter autrui et avoir le niveau de base qu'on doit attendre de toute personne en France pour bien vivre, tout simplement. Et puis, en même temps, c'est un enjeu de justice sociale qui va avec cela, puisque c'est un enjeu souvent pour aider ceux qui sont le plus dans la difficulté, en milieu urbain comme en milieu rural, au début de la scolarité comme à la fin de la scolarité.
Alors aujourd'hui, c'est la rentrée des profs, des professeurs, avant celle des élèves lundi. Il ne manque pas d'enseignants devant les élèves. Tous les postes sont pourvus en cette rentrée.
Oui, alors bien sûr, il peut y avoir toujours une exception ou deux, mais d'un point de vue technique, comme on dit, la rentrée est prête, est faite, c'est-à-dire l'affectation des professeurs devant élèves. Bien entendu, dans toute rentrée, depuis toujours, et ce sera toujours le cas, il peut y avoir quelques manques, mais ils sont vraiment minimes en cette rentrée, donc elle est en effet en passe d'être faite de manière parfaitement réussie.
Une de leurs craintes en cette rentrée, c'est ce qu'ils appellent, on l'a entendu à 7h avec un représentant de l'UNSA, votre évaluationnite aiguë. Ça évalue à tous les étages. Deux évaluations pour les CP cette année, CE1, une donc en septembre pour les CE1, une pour les 6e, et même les secondes auront un test. Les profs ont le sentiment que ça porte un soupçon sur leur travail. Si on évalue, c'est qu'on ne leur fait pas confiance.
C'est tout le contraire, évidemment. D'abord, ce n'est pas les profs, parce que j'étais encore beaucoup sur le terrain ces derniers temps pour toutes les pré-rentrées, des rencontres avec des professeurs. Et je peux vous dire que les professeurs de terrain savent très bien que ces évaluations, non seulement ne sont pas un problème, mais c'est une solution. C'est-à-dire, c'est un outil qui est utile. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux pratiquent déjà des évaluations de début d'année. L'intérêt de celle-ci, c'est que ça permet d'en avoir partout et qu'elles sont en plus élaborées de manière très fine par les meilleurs experts de ces questions. Et c'est ce qui fait qu'on a, en début d'année, un portrait de l'élève qui permet de l'aider, cet élève. C'est aussi simple que ça.
Ça évalue indirectement aussi les profs et leurs performances. Et ça fait une mise en concurrence, disent-ils, entre les établissements.
Non, ça c'est ce que disent certaines voix qui vivent sur le marché de l'angoisse.
Marché de l'angoisse, c'est quoi?
C'est-à-dire les gens qui aiment bien rajouter de l'angoisse là où ça n'est pas nécessaire. Il n'y a pas d'angoisse à avoir parce qu'on fait de l'évaluation. On fait de l'évaluation pas pour le plaisir de l'évaluation, on fait de l'évaluation pour aider les élèves. Et donc, et les professeurs et les parents d'élèves savent très bien que c'est utile. Et d'ailleurs, les élèves aiment bien qu'on leur dise « Tiens, tu es voici ton portrait. » Mais non, le mot stress, on en fait un abus comme de certains autres mots. Il n'y a rien de stressant à avoir une évaluation de début d'année qui permet de dire « je vais mieux te connaître, en te connaissant mieux, je vais mieux t'aider ». Si c'est stressant, alors on ne peut plus rien faire.
Alors eux, ils vous évaluent, ça je dois dire. Un petit échantillon avec la patronne du SNUIPP, Madame Popineau, qui était lundi matin sur RTL.
Alors vous dites « eux », c'est la patronne d'un syndicat.
Vous l'écoutez ?
C'est pas les professeurs.
Avec elle.
Cette politique est paternaliste, qui vire à la tyrannie, c'est une politique extrêmement verticale, qui ne tient plus compte de la professionnalité des enseignants. Jean-Michel Blanquer est un ministre qui a des idées, il faut en avoir quand on est ministre, mais il faut les croiser avec le terrain.
comme on dit, elle envoie le bois, monsieur le ministre.
Ce qui vire
à la tyrannie, dit-elle.
Oui, bah, vous avez raison de reprendre cette expression. Ce qui est excessif est dérisoire. Enfin, et vous savez, j'ai dit tout à l'heure, on abuse d'un mot, le mot stress. Il faut quand même voir que les mots ont un sens. Si on se met à utiliser le mot tyrannie, le mot tyrannie a un sens, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Il a un sens. L'utiliser à mon égard, c'est insultant et c'est évidemment totalement
faux. Vous vous
sentez insulté ? Bah, évidemment, c'est insultant. Et c'est pas à l'image de ce que nous voulons enclencher comme cercle vertueux d'un vocabulaire approprié pour se respecter.
Il n'en reste pas moins qu'il y a une crise du recrutement. Elle n'est pas récente, hein, ça fait des années qu'on la voit venir. Ils souffrent d'un défaut de reconnaissance, les enseignants. Ils s'estiment mal payés. Le métier n'est pas suffisamment attractif. Et cette année, ils vont toucher une prime dans les établissements REP+, c'est-à-dire dans les quartiers défavorisés, de 1 000 euros. Ils la touchent quand d'ailleurs ?
Alors c'est sur l'ensemble de l'année,
c'est
donc
mensualisé,
ils le touchent,
en fait.
C'est mensualisé, tout à fait.
D'accord, donc à partir de ce mois de septembre. Et ça fait partie de la promesse d'Emmanuel Macron d'une revalorisation de 3 000 euros. Progressivement, le reste, ça viendra par une prime au mérite, c'est-à-dire ?
Eh bien, nous sommes engagés dans l'accomplissement de cet engagement du président de la République et qui permet donc déjà de commencer avec 1 000 euros par an, ce qui est déjà une somme importante. Et nous voulons aller vers 2 000 euros l'année suivante, puis 3 000. Mais ce que nous souhaitons, et c'est ce dont nous parlons avec les organisations syndicales en ce moment aussi, c'est faire en sorte que ces primes soient utiles non seulement pour ceux qui les reçoivent, mais qu'elles soient utiles pour les élèves, tout simplement. Et ce faisant, ce que nous voulons, c'est qu'elles permettent non seulement pas tellement d'indemniser la difficulté, c'est-à-dire de dire vous êtes dans un territoire difficile, donc on va vous donner de l'argent pour mieux vous attirer et d'une certaine façon mieux vous récompenser, mais surtout pour dire, ensemble, voyons comment on sort cette école d'une situation qui n'est pas très bonne pour aller vers une situation meilleure. Et donc, ces primes probablement seront de nature collective, c'est-à-dire l'argent que nous mettrons dans l'éducation prioritaire, qui représente des sommes importantes, nous le mettrons non pas pour pérenniser des situations, mais pour au contraire permettre d'en sortir et pour donc progresser. C'est toujours la même idée
donc
d'ailleurs.
C'est
l'idée d'avoir des leviers
moment.
De progresser. Si vous voulez, toutes ces mesures sont anti-fatalistes. Beaucoup de gens aimeraient qu'on soit dans une sorte de cercle permanent, fermé sur lui-même et qu'on reproduise sans arrêt les mêmes choses. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment le vrai progrès, et notamment le progrès social. Ouais. Et le progrès social, il faut des leviers. Par exemple, en évaluant pour dire ce qui ne va et ce qui ne va pas, et changer ce qui ne va pas, se servir des primes, non pas comme ça pour arroser le système, mais au contraire pour avoir un levier de réussite.
Mais qui évaluera ? Justement, qui dira que la performance a été suffisamment atteinte pour que la prime soit versée ?
Je vous ai dit, il y a un dialogue social.
Une instance indépendante ?
Au moment où je vous parle, ça n'est pas défini, parce que précisément, contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a du dialogue social, et donc précisément, ça va se définir dans ce dialogue social.
Sur un sujet assez sensible. La grande nouveauté, on en parlait hier avec les auditeurs, qui plébiscitent plutôt cette innovation, c'est l'interdiction du portable. Les auditeurs au 3210 y étaient très favorables. Les enseignants sont susceptibles ou sont encouragés à montrer l'exemple, c'est-à-dire, ils ne doivent pas téléphoner en cours de récré, par exemple.
Non, c'est non seulement eux, mais vous aussi, nous.
Nous, les parents.
Nous, la société française. Le message envoyé, c'est que l'addiction aux écrans peut devenir une plaie dans notre société, que ça nuit aux rapports humains. Donc évidemment, ça commence par l'éducation et nous avons une responsabilité vis-à-vis des enfants pour, d'une certaine façon, les protéger, tout en ayant une ambition sur les sujets numériques. Les deux vont ensemble. Mais s'agissant de la protection que nous devons aux enfants, eh bien, il y a aussi les protéger contre l'addiction au téléphone portable. Et les gens vivent ça en famille, malheureusement, et nous devons, quand
mais
on dit nous
que
devons
vous dites aux enseignants,
tous les adultes,
quand je ne dis pas quelle exemplarité, vous leur dites
non, j'ai pas utilisé spécifiquement, je ne suis pas spécifiquement adressé aux enseignants là-dessus, je m'adresse aux adultes en contact avec les enfants de façon générale. Donnons l'exemple de ne pas nous-mêmes être dans une addiction aux écrans qui est évidemment imitée
par
les enfants.
Vous arrivez à vous en passer, vous, monsieur le ministre ?
C'est difficile dans la vie telle qu'elle est, mais par exemple, vous voyez, pendant les vacances, je m'efforçais de quasiment pas le regarder entre le matin et le soir.
Et pendant cette interview, on peut le dire, vous ne le regardez pas, c'est tant mieux. Il y a un enjeu fort de discipline quand même. Hein. Il y a peut-être des établissements où ce sera difficile à imposer. Cette interdiction.
Non, non.
Vous êtes confiant ?
Totalement. Je n'ai aucun doute sur ce point. C'est-à-dire, l'interdiction est du domaine de la loi. Et bien entendu, les chefs d'établissement de toute la France la feront respecter. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Nous envoyons en ce moment même dans tous les établissements le vadémécum qui permet d'expliquer la façon
le
mode d'emploi, qui laisse d'ailleurs des marges de manœuvre aux établissements.
Oui, ce sera variable.
Mais l'interdiction sera respectée, bien sûr.
On reparlera tout à l'heure du dédoublement des classes avec les auditeurs et avec Yves Calvi. C'est une innovation que vous amplifiez en cette rentrée. Tout à l'heure, vous allez en Conseil des ministres, après être allé dans un établissement pour la rentrée des enseignants. Il va y avoir un vide ?
Ben oui, bien entendu, puisque le départ de Nicolas Hulot représente un vide, c'est évident, mais ce vide sera comblé.
Mais c'est un vide. C'était quand même une personne singulière. C'est pas n'importe quel ministre.
Aucun ministre n'est n'importe quel ministre.
Ah bah plus ou moins. Dans notre sondage, Nicolas Hulot reste la personne en laquelle les Français voudraient voir une influence de plus en plus importante.
Bien sûr, évidemment.
C'est lui, c'est pas les autres.
Ça, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire par là que par définition, quelqu'un qui s'en va crée un vide. Et en plus, il y avait un vrai esprit d'équipe entre nous, on s'appréciait beaucoup. Donc, bien entendu que c'est une perte. Je ne vais absolument pas nier cela. Au contraire, j'aime beaucoup Nicolas Hulot, en plus, aussi bien à titre personnel que comme ministre, puisqu'en plus, je pense qu'il faisait des choses. Peut-être que je le pensais plus que lui, mais en tout cas, je pense qu'il faisait des choses. Même dans le domaine de l'éducation, on avance sur ces sujets du développement durable. Donc, on continuera à travailler. Et d'ailleurs, je pense que je continuerai à être être en relation avec lui, toujours sur ces enjeux-là, puisqu'il va certainement jouer un rôle...
Peut-être dans l'opposition.
Moi, je pense, c'est pas l'esprit dans lequel j'ai compris son départ. Vous savez, il a dit à quel point il voulait être utile en partant, y compris utile au gouvernement. Il nous a d'ailleurs dit qu'il voulait pas qu'on instrumentalise son départ. Et d'ailleurs, du coup, il faut mieux pas trop le commenter, parce que...
Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. On vous retrouve à 8h15 avec les auditeurs et Yves Calvi.
Le standard est ouvert. 32 10, mais aussi les SMS 64 900, code matin. À tout à l'heure, monsieur le ministre.